Bonjour à tous. L'épidémie de coronavirus continue de flamber en France. Une semaine sous tension s'annonce, notamment à l'école, où les syndicats appellent à la grève. En Corse, région particulièrement touchée par l'épidémie, le premier centre de vaccination de France, ouvert 24 heures sur 24, a été inauguré ce matin. Invitée de ce journal, Marie-Hélène Le Seine, directrice générale de l'ARS de Corse. Une femme et sa fille de 2 ans tuées la nuit dernière à Aubervilliers. Le père a été placé en garde à vue. Les précisions dans un instant. Une situation alarmante pour l'environnement en Europe. La Lufthansa annonce que des milliers d'avions vont voler à vide pour conserver leur créneau de décollage dans les aéroports. Une situation ubuesque pour les écologistes. Dans ce journal également, Anne Hidalgo à Jarnac ce matin pour un hommage à François Mitterrand, le militant politique Rami Chat en route pour Paris après 2 ans de prison en Égypte et Djokovic qui contre-attaque avant l'Open d'Australie. La météo et un nouveau front pluvieux traverse la France. Jean-Michel Golinski, à la fin de ce journal, à 13h20, Secret d'Info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur la gestion d'Alain Ferrand, le maire du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. Là-bas, depuis une trentaine d'années, les affaires se succèdent sur fond de collusion entre argent public et intérêts privés.
Jacques Monin, Secret d'Info, après ce journal.
France Inter.
C'est malheureusement une information et un drame qui se répètent depuis ce début d'année 2022. Une femme de 29 ans et sa fille de 2 ans et demi ont été tuées à l'arme blanche la nuit dernière à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Le conjoint et le père de l'enfant, lui assez âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue à Gérard Mohamed.
D'après le parquet de Bobigny, de nombreux coups, de nombreuses plaies ont été relevés sur les corps des deux victimes. La mère, âgée de 29 ans, et sa fillette de 2 ans et demi. L'homme s'est acharné sur elle, mais aussi sur sa propre sœur présente dans l'appartement cette nuit-là. Blessée par plusieurs coups de couteau, cette femme réussit à s'échapper en sautant par la fenêtre. Elle est hospitalisée en urgence absolue. Alertée par des témoins, la police arrive sur place vers 2h30 du matin et parvient à interpeller le suspect en train de fuir en voiture. Ce dernier est placé en garde à vue. Pour le moment, les circonstances autour de ces homicides sont encore floues, précise le parquet. On ne sait pas si le couple était en instance de séparation, ni si l'homme, âgé de 29 ans, lui aussi était déjà connu pour des violences conjugales. En tout cas, d'après le décompte du collectif Nous Toutes, il s'agit déjà du 4e féminicide enregistré en France depuis le début de l'année.
Et selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. Elles étaient 146 en 2019. La flambée des contaminations au coronavirus est inédite. En France, plus de 328 000 nouveaux cas hier. La diffusion du nouveau variant Omicron est très rapide. Le pic hospitalier est attendu entre la mi- et la fin janvier. Le variant Omicron est sans doute à l'origine de 4 cas confirmés sur 5 actuellement en France. Et la semaine qui arrive sera sans doute une semaine sous tension au travail, à l'hôpital, dans les pharmacies pour se faire tester, mais aussi à l'école depuis l'entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire et face à la poussée des contaminations. Les enseignants et les parents ont l'impression de naviguer à vue et jeudi prochain, 13 janvier, la quasi-totalité des syndicats d'enseignants appellent à la grève. Et malgré la grogne des professeurs et des parents d'élèves entre fermeture des classes et enfants malades, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite une école ouverte au maximum. Et ce matin, Valérie Pécresse tenait une conférence de presse, la candidate du Parti Républicain à la présidentielle, qui avait demandé de reculer le retour à l'école, a regretté de ne pas avoir été entendu.
Eh bien écoutez, force est de constater que j'avais bien raison de demander le report d'une semaine de la rentrée scolaire. Quand on voit l'absolue désespérance des familles, des parents, des enseignants qui se demandent tous les jours à quelle sauce ils doivent tester, protocoler leurs enfants, je le dis, écoutez l'opposition quand elle fait des propositions constructives. C'est être un bon président de la République. Moi, présidente de la République, j'écouterai les propositions d'où qu'elles viennent, je respecterai les voix d'où qu'elles viennent, parce que quelquefois, elles ont la voix de la sagesse et de la raison.
Valérie Pécresse en campagne avec Anne Souhaitemont. Une région est particulièrement touchée, la Corse, avec un taux d'incidence de plus de 2400 cas pour 100 000 habitants. Et ce matin, près d'Ajaccio, à Sarola-Carcopino, le premier centre de vaccination de France, ouvert 24 heures sur 24, a été inauguré. Un centre ouvert 24 heures sur 24, donc 3 jours par semaine. Invitée de ce journal, Marie-Hélène Le Seine, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Corse. Bonjour Marie-Hélène Le Seine.
Bonjour.
L'ouverture de ce centre ce matin, ce centre de vaccination, correspond à une situation d'urgence en Corse?
Oui, tout à fait. On essaye vraiment de développer la stratégie aller vers, en fait, en développant de nouvelles offres de vaccination. Et là, en l'occurrence, on a accompagné une initiative du maire de Sarola et de SOS Médecins avec un format, effectivement, 24 heures sur 24. On a souhaité répondre à une attente, en fait, hein. C'est une zone périurbaine, effectivement économique, hein, donc avec la logique de répondre à des salariés ou des entrepreneurs qui, finalement, ne peuvent pas forcément se libérer en journée. Et donc, on a choisi cette approche pour aussi remobiliser la population corse par rapport à la vaccination, puisque nous connaissons un taux d'occupation extrêmement élevé des réanimations et des capacités hospitalières en unité virale. Et donc pour nous, c'est un véritable enjeu de gagner la course contre la montre par rapport aux variants Omicron et de protéger au maximum les personnes susceptibles d'avoir besoin de l'hôpital. Et donc c'est vraiment cette logique, hein, très proactive de développer l'offre pour correspondre à la reprise de la demande de vaccination.
Parce que la Corse, après l'Île-de-France, est la deuxième région la plus touchée par le nouveau variant dont vous parliez.
Oui, tout à fait. Nous connaissons effectivement ce record, en fait, hein, de circulation virale très très importante, avec une proportion d'Omicron très élevée. A priori, dans nos dernières évaluations, c'est 90% hein, du variant Omicron. Et du coup, on conjugue finalement un impact sur l'hôpital très élevé avec le variant Delta issu des contaminations de décembre, en fait. Et puis, on doit faire face, effectivement, à cette circulation virale particulièrement intensive.
Marie-Hélène Le Seine, une précision sur le centre de vaccination de Sarola-Carcoupino. Donc ouvert 24 heures sur 24, on se présente sans rendez-vous, on y va nuit et jour pendant 3 jours sans prendre de rendez-vous, sans s'annoncer.
Voilà, alors les habitudes en Corse, hein, c'est vraiment à la fois la prise de rendez-vous, donc il y a effectivement possibilité de prendre rendez-vous et on a ouvert, hein, de nombreux nouveaux créneaux avec des approvisionnements actualisés cette semaine. Et puis c'est vrai que les habitudes en Corse, c'est aussi de se rendre directement dans les centres sans rendez-vous. Et là, on est bien sûr aussi dans cette capacité d'accueillir les candidats à la vaccination sous ce mode-là.
Marie-Hélène Le Seine, il y a un peu plus d'un mois, vous lanciez un appel à l'aide à l'ensemble des soignants pour venir aider les hôpitaux en Corse. Vous parliez d'explosion virale, des malades de Corse ont été soignés ailleurs que sur l'île. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, nous avons toujours une telle tension qui nous amène en fait à procéder de différentes manières. On a effectué de nouvelles évacuations sanitaires cette semaine. Donc on remercie d'ailleurs nos collègues bretons qui ont accueilli à nouveau de nouveaux patients, notamment de la réanimation de Bastia. Nous procédons à des réquisitions d'infirmières libérales pour permettre finalement de garantir les tableaux de garde dans les réanimations. Et puis nous avons bénéficié de la réserve sanitaire et donc on a pu ainsi tenir finalement nos tableaux de garde, mais avec une actualisation qui se fait au jour le jour. C'est-à-dire que les établissements aujourd'hui, dans leur fonctionnement, sont amenés chaque jour à revoir leur fonctionnement, leur capacitaire, vérifier avec la contamination aussi des soignants, la manière de mobiliser des ressources externes. Et c'est extrêmement coûteux par rapport au système hospitalier. Et même si on a repris une partie de l'activité de programmée, on est aujourd'hui dans une situation où les déprogrammations répétitives sont vraiment ont un impact en fait hein, sur tous les résidents corses qui ont aussi besoin de leur offre hospitalière. Et donc c'est vraiment ces équilibres qui sont très exigeants qui nous conduisent à nous mobiliser tous en faveur de la vaccination, primo-vaccination, puisqu'on a encore des personnes fragiles à inviter à la vaccination, et surtout la dose de rappel, qui pour nous est vraiment l'outil principal et incontournable et précieux.
Marie-Hélène Le Seine, merci beaucoup, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Corse. Et dans ce contexte sanitaire, face au risque accru de contamination, certaines manifestations qui se déroulent ce week-end sont maintenues. C'est le cas notamment des salons de l'étudiant qui, comme les foires, ne sont pas soumis à la jauge de 2000 personnes en intérieur. Exemple à Rouen, où le salon de l'étudiant se tient jusqu'à ce soir au parc des expositions, annulé l'an dernier. Il a donc bien lieu ce week-end, mais des dispositions ont été prises pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs qui viennent chercher un établissement, une orientation ou découvrir des métiers. Tristan Hamon, commissaire du salon de l'étudiant.
C'est important pour les futurs étudiants parce qu'en fin de compte, on a remarqué, même si l'année dernière, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été prises sur Internet, sur notre site l'étudiant qui a pu augmenter son trafic, c'est vrai que il y a quand même une demande des futurs étudiants et des parents pour avoir plus de renseignements. Et puis, en fin de compte, les salons, ça permet vraiment de poser des questions personnalisées aux organismes de formation, de pouvoir vraiment parler de son parcours avec les établissements. C'est beaucoup plus facile que sur Internet, où en fin de compte, on reste sur des brochures assez généralistes. Et puis, en fin de compte, ça répond pas vraiment à nos questions. Et puis, les jeunes sont demandeurs.
Tristan Hamon avec Christine Wurtz de France Bleu Normandie. Et cet après-midi, plusieurs dizaines de manifestations sont annoncées en France pour protester contre le pass vaccinal et les mesures sanitaires à Paris. La manifestation contre le pass vaccinal aura lieu cet après-midi à l'appel du candidat Florian Philippot. Des milliers d'avions qui volent à vide et une situation alarmante en Europe pour l'environnement. La Lufthansa, par exemple, a averti qu'elle devrait évacuer 18 000 vols sans passagers cet hiver pour conserver ses droits de décollage. Une situation ubuesque et qui provoque de vives réactions. Karima Delli, députée européenne et présidente de la commission transport du Parlement européen, était ce matin l'invitée du 6-9 de France Inter.
Je n'ai pas attendu le gouvernement français, je n'ai pas attendu M. Djebari pour écrire à la Commission européenne et pour qu'à nouveau, on ait un nouveau texte, puisque c'est une règle qui s'appelle « use it or lose it », c'est-à-dire soit on les utilise, soit on les perd, ce qui est dramatique sur les créneaux horaires, d'accord ? Et donc là, nous allons refaire ce que nous avons fait durant le Covid, nous allons suspendre les règles pour qu'il n'y ait plus d'avions fantômes. C'est la raison pour laquelle nous aurons un nouveau texte qui remettra à plat l'ensemble des créneaux horaires et en même temps, il faut travailler sur les alternatives à l'aviation. Les alternatives à l'aviation, ce que je rappelle qu'en parallèle, la Commission est en train aussi de titiller sur le texte où la France a dit les alternatives, notamment de 2h30 d'avion, donc le train, on va peut-être regarder la concurrence. Ça, ce n'est pas possible. Donc, le texte sera à l'ordre du jour, dès la semaine prochaine sur mon bureau.
Karima Delli avec Eric Delvaux et Karine Bécard. La politique ce week-end avec plusieurs candidats à l'élection présidentielle en meeting. Marine Le Pen à Carcassonne, Éric Zemmour au Sable d'Olonne, Yannick Jadot à Angers et Nathalie Arthaud à Charleville-Mézières. Anne Hidalgo était à Jarnac ce matin en Charente pour un hommage à François Mitterrand.
Lorsqu'il a quitté ses fonctions de président de la République, il a dit à ses camarades socialistes « Vous vous battrez dos au mur ». Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. Mais justement, c'est aussi ce message de courage qui a été le sien, de courage au service de nos valeurs, des valeurs de la République et de la justice sociale. C'est ce message-là que je veux porter dans cette France. La référence à François Mitterrand nous invite aussi à reparler de la politique, de l'engagement, du respect des adversaires, du respect des valeurs, du respect des partenaires et sans doute à prendre un peu de cette force et de cette hauteur de vue, celle qu'avait notamment François Mitterrand.
Anne Hidalgo avec Benjamin Mathieu. Et puis ce matin, après Charlie Hebdo hier, une cérémonie d'hommage a eu lieu à Montrouge à la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale assassinée par Amédée Coulibaly le 8 janvier 2015. Cérémonie en présence de Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Le militant Rami Chat en route pour Paris. Le militant politique égypto-palestinien Rami Chat était détenu en Égypte depuis plus de 2 ans. Il a été contraint de renoncer à sa nationalité égyptienne pour obtenir sa libération. L'homme de 48 ans, une figure de la révolution égyptienne de 2011, était détenu donc en Égypte pour avoir voulu fomenter des troubles contre l'État. Sa libération est saluée comme une joie intense par Amnesty International France et Katia Roux, membre d'Amnesty.
Aujourd'hui, en Égypte, c'est compliqué de défendre les droits humains, c'est compliqué de critiquer le régime d'Al-Sissi. Rami Chat est un éminent militant des droits humains engagé de longue date pour la défense des droits, notamment des droits des Palestiniens. Il est rentré dans le viseur des autorités égyptiennes sans que jamais il n'ait pu faire l'objet d'un procès, ni même que des charges officielles soient retenues contre lui.
Et qu'est-ce qui explique alors sa libération aujourd'hui ?
C'est véritablement la mobilisation internationale à tous les niveaux. Il faut savoir que sa femme, donc Céline Lebrun-Chat, elle a coordonné une campagne internationale pour la libération de son mari. Il y a eu énormément de prises de parole d'officiels, de parlementaires européens, français, de membres du Congrès américain. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des milliers de prisonniers d'opinion encore en Égypte et c'est toujours très difficile de maintenir une attention forte et constante dans la durée, pendant des mois, pendant des années, parce que c'est aujourd'hui ça le sort de ces personnes qui osent s'exprimer en Égypte.
Katia Roux d'Amnesty avec Julie Pietri à l'étranger, au Kazakhstan. Le Kremlin et le pouvoir kazakh promettent de rétablir l'ordre après un entretien ce matin entre le président russe Vladimir Poutine et le président kazakh Kassym Jomart Tokayev. Hier, le président du Kazakhstan a autorisé les forces de sécurité à tirer pour tuer afin d'étouffer les émeutes qui secouent le pays avec l'appui de Moscou. Il a exclu de négocier avec les manifestants, déstabilisés depuis dimanche dernier par des émeutes déclenchées à cause d'une flambée des prix de l'énergie. Le Kazakhstan est pourtant un Eldorado qui attise les convoitises économiques et commerciales de pays étrangers, à commencer par la France, Christian Chenoux.
Situé au cœur de l'Eurasie, ce pays de 20 millions d'habitants est un nouveau Far West pour le business. Première économie d'Asie centrale, le Kazakhstan attire les investisseurs et les hommes d'affaires du monde entier, car ici, tout est à faire et tout est à construire. Son sous-sol semble béni des dieux de la nature. Le Kazakhstan dispose des premières réserves de tungstène au monde, les deuxièmes pour l'uranium et le chrome, les quatrièmes pour le manganèse et l'argent, les cinquièmes pour le plomb et le zinc, sans parler des hydrocarbures qui font la fortune du pays. Dans cette course au contrat, la France est bien placée. Des entreprises hexagonales sont implantées dans les secteurs de l'énergie, la construction, l'uranium, l'aéronautique, le ferroviaire et l'agroalimentaire. Les exportations françaises vers le Kazakhstan ont connu une hausse de plus de 40% en 2020, une progression spectaculaire qui s'explique par la vente d'avions et d'engins spatiaux, comme le signe de la montée en puissance d'un partenariat florissant entre les deux pays.
C'est l'une des informations à rebondissement de ce début d'année. Novak Djokovic ne renonce pas et contre-attaque. Le numéro 1 mondial de tennis interdit d'entrer en Australie pour raisons sanitaires estime pouvoir être dispensé de vaccination car il a contracté le Covid-19 en décembre dernier. Cédric Guillou.
Novak Djokovic bénéficiait d'une exemption de vaccination contre le Covid car il avait contracté le virus le 16 décembre dernier. C'est ce que déclarent les avocats du numéro 1 mondial qui indiquent également avoir déposé un document auprès du tribunal fédéral. Document qui cherche à annuler le rejet de son visa d'entrée en Australie. Les avocats du Serbe précisent aussi que Novak Djokovic a reçu le 1er janvier un document du ministère de l'Intérieur australien indiquant qu'il remplissait les conditions pour une entrée sans quarantaine en Australie. Djokovic conteste donc par le biais de la justice le revirement des autorités australiennes. Actuellement placé en rétention sanitaire depuis son arrivée à Melbourne, le Serbe a aussi demandé à être transféré afin de pouvoir s'entraîner normalement avant le début du tournoi. Il espère toujours pouvoir participer à l'Open d'Australie, un tournoi dont il est le tenant du titre et qui doit débuter le 17 janvier.
Et puis en football, Lionel Messi déclare forfait pour le match de demain de Ligue 1 Lyon-PSG. Lionel Messi avait été touché par le Covid-19 durant les fêtes et l'Argentin va continuer son protocole de reprise individuelle post-Covid durant les prochains jours, explique le PSG. On termine avec le choix culturel pour ce week-end et un conseil de lecture, un texte tout sauf paisible, il s'agit même d'une déflagration. Tout le temps de l'écriture de ce texte, j'ai cessé de vivre, écrit Justine Beau. Cette jeune femme de 33 ans publie son 6e roman, Alphabet, où il est question de l'inceste qu'elle a subi. Écrire non pas sur l'inceste, mais par l'inceste, c'est l'ambition de ce livre inouï, Ilana Mor-Youssef.
Il faut commencer par dire ce que ce texte n'est pas. Il n'est pas commode, ce n'est pas un témoignage, surtout pas, ce n'est pas tout à fait un récit. Alphabet, c'est un cri, ou peut-être un cœur qui bat. Justine Beau.
L'un des premiers mots du texte, c'est un lieu en moi qu'on appelle inceste. C'est un mot qui est construit sur une négation. Ce qui est certain, c'est que ça prend la forme d'un cri, qui d'ailleurs était le titre du texte pendant un moment. Forme du cri. Et pulsation du cœur, ça c'est certain, parce que ce qui donne au texte sa forme, c'est le mouvement. Nous cherchons en permanence, par le mouvement à échapper au passé et par le mouvement nous nous précipitons sans cesse dans le passé.
Alphabet est construit autour de ce que Justine Beau appelle le plan manquant. Elle a 4 ou 5 ans, elle est dans la salle de bain, son oncle entre.
Le mot viol, je ne voulais pas qu'il existe. Le cheminement de la narratrice qui va rendre visite à son bourreau 27 ans après, cette visite que j'ai moi-même effectuée en réalité, elle donne lieu à l'énonciation du mot viol par le bourreau lui-même. En fait, ce texte, je pense qu'il est intervenu à un moment où je me sentais ensevelie par le discours sur les violences sexuelles, le discours sur la réparation, sur la justice. Le texte s'est construit en partie contre ça, ou plutôt, il a essayé de chercher une autre voie.
On ne trouve pas une seule fois le mot « victime » dans Alphabet. Justine Beau n'est pas une victime, c'est un écrivain.
Alphabet de Justine Beau, publié chez Grasset.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, le soleil le plus durable sera pour l'extrême sud-est, du golfe du Lion à la Provence, également sur la Corse, mais avec un mistral et une tramontane assez sensibles. Ailleurs, l'ambiance sera perturbée, pluvieuse et ventée, avec des rafales à 80 km à l'heure dans les terres, parfois proches de 110, près de la Manche et de l'océan. Le tout sous un régime de temps pluvieux, même parfois orageux, de la Bretagne à la Belgique. En fait, la perturbation arrivée en matinée par le quart nord-ouest va gagner d'ici la fin de la journée vers les Pyrénées, les Vosges, le Jura et les Alpes, en donnant de la neige sur tous les massifs dès les moyennes altitudes. Dans des températures maximales de 8 à 10 degrés en allant du nord vers la région parisienne, le centre et le Midi-Pyrénées. Plus à l'est, les maxima vont se limiter à 6 degrés à Dijon, Strasbourg et Lyon. La relative douceur entre 12 et 14 sera pour les bords de l'océan et de la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.